Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Le dossier d'Alexandre Bissonnette, pour ceux qui ont suivi tout ça, on s'est reconnu coupable de meurtre premier degré. Six personnes, six tentatives de meurtre, un crime odieux, on le sait. Maintenant, il y a tout qu'un débat lié à un débat de société, on va le dire, lié à cette cause-là, à savoir, bon, quelqu'un qui commet ce genre de crime avec plusieurs morts, est-ce qu'on peut cumuler la période d'admissibilité, dans le fond, à la libération conditionnelle? On sait que la loi de base impose 25 ans minimum. C'est la prison à vie, par contre. Il y a une commission de libération conditionnelle qui est là pour dire, bien, est-ce que la personne est réhabilitée ou pas? Dans le dossier Bissonnette, on sait qu'on dit, est-ce qu'on règle ça au départ? Est-ce qu'on lui donne 50 ans, 150 ans avant de pouvoir avoir la liberté conditionnelle? Et là, la cour d'appel est intervenue, a dit non. C'est cet article-là qui avait été instauré par le gouvernement Harper qui permet de cumuler comme ça était inconstitutionnel. Le jugement de première instance qui dit qu'on cumule 25 plus un autre période qui donnait à peu près 40 ans et qu'on réparait l'article, on dit non, c'est pas au juge de faire ça, c'est au législateur, c'est au gouvernement de refaire un article si c'est une volonté de cumuler ces peines-là. Mais il en reste pas moins que le crime est odieux. On l'a pas dit directement, mais on sait qu'il y a une saveur raciste qui on a attaqué une mosquée. Là, c'est particulier. Et tout ça, il faut se rappeler aussi que la Cour suprême a accepté cet appel-là parce qu'au Canada, c'est même pas homogène. Au Québec, en ce moment, l'article est inconstitutionnel, mais pour ce qui est du Canada, dont l'Ontario, il y a des gens qui ont été condamnés à 75 ans de prison minimum. Donc, il va falloir que ça soit uniformisé parce qu'on sait que les jugements de l'Ontario n'ont pas de force ici. Il n'y a pas de stare decisis. Donc, c'est pour ça qu'on a accepté de traiter ça. Est-ce que c'est constitutionnel? Mais c'est quand même ce crime-là, c'est historique ce qui se passe et on espère avoir des réponses. On en parle avec Éric Jacob Debroise, qui est spécialiste de la criminalité et de la justice, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Maître Bernier. Ça va?
Ça va bien. Merci d'être là. Donc, j'ai mis la table un peu sur ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Mais pour vous, là, c'est un dossier qui a un caractère vraiment particulier, là.
Oui, ben, tout à fait. Outre les mathématiques constitutionnelles et judiciaires dans lesquelles on baigne, parce qu'effectivement, il y a un problème en fait de chiffres et personne n'arrive à s'entendre, il n'en demeure pas moins que l'attentat de la mosquée de Québec, ça va faire plus de 4 ans. Cet attentat qui s'est déroulé. Et si vous me permettez, Maître Bernier, je vais faire un petit retour dans le passé pour qu'ensuite on puisse débattre de l'aspect constitutionnel ou non de l'article 745.51 qui est du cumul des peines. Alexandre Bissonnette, le 29 janvier 2017, donc il est étudiant à l'Université Laval, et là, le soir, on entend à la radio que il y a une tuerie de masse au Centre culturel islamique de Québec. Ce qui aboutit, vous l'avez dit tout à l'heure, 6 victimes, 8 blessés. On en parle un peu moins, mais il y a des dommages collatéraux, c'est-à-dire que il y a quand même 17 orphelins derrière, 39 personnes quand même en sortent indemnes de cette attaque, mais ça aurait pu être beaucoup plus meurtrier. Le soir même, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que Alexandre Bissonnette est pris de remords, il appelle la police, se dénonce et se remet finalement aux forces de l'ordre. Ce qu'il faut bien noter dans cet attentat à la mosquée de Québec, c'est à mon sens et à ma connaissance le premier attentat islamophobe dans le monde occidental avec des victimes. parce que des crimes haineux, il y en a toujours eu, et malheureusement, il y en a toujours eu envers les minorités, mais à l'encontre d'une mosquée, qu'il y ait eu un crime haineux qui aboutisse à des morts, à mon sens, c'était la première fois. Et par la suite, Alexandre Bissonnette, ça a inspiré d'autres personnes. Souvenez-vous, l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, ça
ouais.
fait 51 victimes et 49 blessés. Et il avait la personne qui avait commis ce crime, cet attentat, avait clairement dit qu'elle avait été inspirée par Alexandre Bissonnette.
Ah oui, c'est vraiment, c'est marquant. C'est la première fois qu'on attaque un lieu de culte là, en Occident. Là.
Un lieu de culte avec l'aboutissement ensuite avec des morts, avec des victimes. Mmh. Parce que des crimes, que ça soit des insultes, des tags, des débris aussi, ça, il y en avait, il y en a toujours eu, et malheureusement, il y en aura encore, mais que ça soit un attentat vraiment avec des actes criminels qui aboutissent à des morts, c'est, à mon sens, c'était la première fois, et ça a donné, ça a inspiré ensuite d'autres personnes à faire la même chose. Vous savez, c'est un peu comme le suicide. Quand il y a une personne qui se suicide dans un environnement, il faut faire très rapidement attention aux autres personnes de cet environnement parce que ça peut en inspirer d'autres. Ben, c'est pareil pour les attentats, ça a le même effet néfaste, ça peut inspirer d'autres personnes. Néanmoins, la société québécoise, il faut le dire, c'est une société qui est résiliente. Rapidement, elle a pris en main le problème. Dès le lendemain de l'attentat, près de 10 000 personnes s'étaient rassemblées pour soutenir les victimes, pour montrer aussi leur désapprobation. Et puis par la suite, il y a eu une commémoration nationale au Québec et au Canada, avec la présence quand même de multiples politiciens. Et suite à l'attentat, donc rapidement, une peine a été prononcée contre Alexandre Bissonnette. C'était le juge François Huot qui a imposé une peine minimale de 40 ans de détention pour Alexandre Bissonnette. Mmh. Ça, c'était en février 2019. Et en novembre 2019, bien la Cour d'appel du Québec révise ce jugement, non pas pour porter un jugement sur l'odieux crime, mais pour poser un jugement sur l'article 745.51 du Code criminel qui permet en fait le cumul des peines, ce qu'on appelle les peines consécutives à travers le pays. Et c'est là qu'on s'interroge sur les peines consécutives parce que le juge François Huot, à l'époque, avait le choix de faire un cumul des peines. Il y a 6 victimes. Donc, il avait le choix de faire 6 fois 25, ça aurait donné 150 ans. Mais ça ne fait pas de sens dans le code criminel canadien de donner une peine à une personne de 150 ans.
Mmh. Hey, au Canada, aux États-Unis, c'est une autre chose.
Ah oui. Ouais. C'est autre chose. La peine minimale, ça aurait été 25 ans, mais le juge François Huot s'est bien rendu compte que là, il y avait quand même un odieux qui avait été commis, qui était une première aussi dans l'ensemble du Canada, concernant cet attentat. Donc, il ne pouvait pas mettre 25. Donc, le juge François Huot s'est retrouvé dans la position de réécrire, en quelque sorte, lui-même, la loi ou de la réinterpréter pour faire 40 ans. Et c'est là que ça pose problématique, puisqu'il a empiété sur le domaine du législateur.
Ouais.
Et donc, la Cour d'appel a rediminué cette peine à 25 ans. Donc, il y a le passage à la Cour suprême.
Maintenant, Cour suprême, mais ce qu'on veut, dans tout ce débat-là, c'est d'essayer de bonifier ou de sembler plus sévère que la prison à vie. Je pense que dans la tête des gens, le chiffre 25 ans, et pour eux, quelqu'un qui a la prison à vie va faire 25 ans, il ne fera pas plus. C'est ça le problème là, de la perception de la société. Là.
On a en fait, en réalité, on a un très gros problème en Occident, c'est qu'on a des crimes qui sont relativement nouveaux, dont on ne connaissait pas trop auparavant. Les attentats, et cumulé à cela, il y a des peines que nous n'appliquons plus, c'est-à-dire que les peines de mort, très peu on en applique en Occident. Je crois que le dernier pays qui en applique en Occident, c'est les États-Unis. Mmh. Donc on se retrouve avec une inadéquation entre des crimes nouveaux et des peines dont on n'arrive pas à équilibrer la sévérité. Et on se rend bien compte que les peines de prison, en tout cas pour la société, ne semblent pas suffisantes, ni la prison à vie. Mais on ne veut pas non plus aller vers des peines capitales. Alors on essaye de jongler avec la possibilité justement de faire un cumul des peines qui serait comme une forme symbolique de dire que c'est une peine capitale pour la personne, c'est-à-dire que au-delà de son de la prison à vie, ben en fait il n'y a aucune possibilité de réhabilitation de cette personne dans la société avant un certain seuil d'années passées.
Mais ça va à l'encontre de tous les assises, les bases du système canadien qui sont de réhabiliter les gens qui ont commis des crimes. Mais comment on étiquette l'horreur? C'est ce qu'on veut faire ici. On veut...
C'est compliqué.
Ouais.
Très compliqué parce que effectivement, comme vous l'avez dit, dans le système canadien, ça va à l'encontre des valeurs du système canadien de réhabilitation, justement, si on applique des peines de 100, 150 ans. Mmh. C'est un principe qu'on retrouve dans toutes les justices européennes qui provient en fait de la culture chrétienne, qui permet que la faute, on puisse s'en repentir. Et donc, effectivement, comment on étiquette l'horreur? J'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais c'est l'argument qui va être utilisé par la défense à la Cour suprême, c'est que on doit permettre la réhabilitation d'une personne dans notre système, dans notre société. Et surtout, ils vont utiliser cet argument pour dire que ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés canadienne.
Mm-hmm. On sait déjà, honnêtement, ce dossier-là, on en parle, on en reparle, mais quelle est la solution? On ne le sait pas, mais c'est certain qu'il y a de bonnes chances que la position de la Cour d'appel qui dit que l'article est donc inconstitutionnel soit maintenue par la Cour suprême. Là, ça, c'est mon humble opinion, mais évidemment, on reverrait ça. Je comprends le principe. Là, on veut démontrer que c'est ce genre de crime-là est plus grave qu'un autre crime qui est aussi grave parce que tuer, enlever la vie, c'est le pire crime. Mais c'est assez complexe. Et moi, je vous dis, on va finir là-dessus, mais je crois qu'une des solutions est sur faire comprendre au public c'est quoi la Commission des libérations conditionnelles du Canada, c'est quoi son rôle, et mettre l'emphase à savoir qu'on soit certain, mais certain, ce que en ce moment la croyance populaire pense pas conclure, que cette commission fait son travail et qu'il n'y a pas personne qui n'est pas réhabilité qui va sortir. Et je pense que c'est là que le bas blesse dans tout ce dossier. Merci beaucoup, Éric Jacob de Brasse. Là, c'était tout le temps qu'on avait, mais très éclairant.
Merci beaucoup, Maître Bernier.
Bonne journée, bye-bye.
Au revoir.